Alors nous, on va parler de cadeaux ce matin, et on en a un petit peu entendu parler tout à l'heure au travers du don spirituel, même si on a bien compris la pensée, je suis à la porte et je frappe, Apocalypse 3:20, laissez entrer Jésus dans votre cœur, c'est tellement important. Mais je voulais revenir sur ces magnifiques cadeaux qui ont été offerts à Jésus lors de la visite de ces fameux mages, astronomes, scientifiques qui venaient de l'Orient. Et on va lire le texte. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi de Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. On va aller un petit peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 11 et verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Et puis on va aller dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Première épître de Pierre. Chapitre 2, verset 9. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On aurait pu traduire un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. C'est là pour la première fois à Antioche que le peuple de Dieu a été appelé des chrétiens. Et nous voyons dans cette lettre de Pierre que nous sommes un peuple à part, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple que Dieu s'est acquis, une nation sainte. J'aimerais parler de notre identité en Jésus-Christ, ce que nous sommes devenus à cause de Jésus-Christ, ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que je crois que c'est important de réaliser que nous portons le nom de chrétien. Et si nous portons le nom de chrétien, c'est parce qu'il y a une référence forcément à Jésus-Christ, évidemment. La référence vient de là, sans aucun doute. Mais s'il y a une référence à Jésus-Christ, c'est quand même pour nous rappeler que nous sommes devenus à cause de cela une nation, l'Église, une nation sainte. Ça, ça m'interpelle quand même, parce que nous avons été arrachés à une vie triste, à une vie morose, à une vie pas belle, à une vie misérable, à une vie qui finalement était bien décevante. Nous avons été sortis de là pour faire autre chose, pour vivre autrement, pour être quelqu'un d'autre. C'est vraiment la volonté de Dieu qu'il y ait une transformation dans notre vie. Alors certains pensent qu'ils pourraient être transformés, ne serait-ce que si leur apparence changeait. Certains le croient, se disant, voilà, je change de tête, je change de parfum, et je vais être quelqu'un d'autre, je vais être quelqu'un de différent. Avez-vous remarqué comme le parfum laisse un message qui s'inscrit dans nos mémoires? Avez-vous remarqué ça? Vous entrez quelque part, vous voyez personne, vous sentez un parfum, vous savez qui c'est, tout de suite le visage de la personne apparaît. C'est étonnant, hein? Pour peu que ce soit une seule personne qui ait ce type de parfum. Notre cerveau a une mémoire et quelque part on visualise cela. Je suis étonné, je me suis arrêté un moment sur la volonté des mages de venir adorer le roi des Juifs qui venait de naître. On comprend qu'il y a eu de leur part de la curiosité. Ils ont étudié les astres et ils ont vu qu'une étoile brillait différemment et que cette étoile leur parlait d'une certaine manière. Alors ils ont fait le voyage pour aller voir un petit peu ce qui se passait en Israël. Vous avez vu le contexte. Vous savez très bien que Hérode n'avait absolument pas l'intention d'aller adorer l'enfant qui venait de naître. Mais comme le roi Hérode n'avait pas envie de partager son trône, quand on est venu lui annoncer que le roi des Juifs venait de naître, lui, il veut le trouver pour le tuer, évidemment. Donc, il va être assez perturbé par l'annonce qu'un roi venait de naître, et il va s'enquérir, vous l'avez vu, auprès des docteurs de la loi, des pharisiens, de ceux qui connaissaient les textes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tous ces gens-là ont su exactement dire où devait naître le Messie. Il le savait, ce qui me fait dire que des années plus tard, quand il a 12 ans et que dans le temple, il pose des questions très intéressantes, qui surprennent d'ailleurs ses scribes, ils auraient dû faire marcher leur mémoire. Et quand 30 ans plus tard, si certains étaient toujours en vie, ils ont compris le ministère de Christ, ils ne devaient pas s'étonner, parce que c'était vraiment lui qui était né, le roi des Juifs, à Bethléem. Sauf que personne n'est venu lui offrir un cadeau. En Israël, on attendait tellement le Messie, ça paraît incroyable. Personne n'est venu lui offrir un quelconque cadeau. Personne. Sauf ces gens qui venaient de loin. Alors je me dis, en somme, que les cadeaux des mages doivent certainement symboliser quelque chose. Certainement. Alors, certains érudits ont essayé de comprendre à quoi pouvaient bien servir ces cadeaux. Et d'un commun accord, beaucoup sont arrivés à cela. C'est que, dans le fond, cela pouvait symboliser l'identité de cet enfant qui venait de naître. Un petit enfant qui vient de naître, qui n'est pas un enfant ordinaire, qui est le roi des Juifs. L'or représentant cette royauté, l'encens, parlant de sa divinité. Tout dans l'Ancien Testament nous ramène à l'encens, un parfum très particulier, très spécial, un parfum qui devait monter jusqu'au ciel et que Dieu approuvait, donc qui indiquait les cieux, qui indiquait le ciel et qui indiquera la divinité de Jésus et la myrrhe qui, elle aussi, était utilisée de différentes manières, mais qui semble, pour beaucoup d'exégètes, parler de l'humanité de Jésus. Alors, quel parallèle pourrait-on faire avec nous? Parce que c'est ça qui est intéressant. Je parlais de notre identité en Jésus-Christ. Devrais-je dire notre devenir en Jésus-Christ? Pierre, Jean, les apôtres sont devenus croyants. C'est comme ça qu'on lit le texte dans les évangiles. Et c'est comme ça qu'on comprend que 3000 sont devenus croyants suite à la prédication de Pierre. Mais ce ne sont que des croyants. On ne les a pas encore totalement identifiés, si vous voulez, moulés dans la personne de Jésus-Christ. Mais au chapitre 11 des Actes, on le fait. Au chapitre 11 des Actes, on dit qu'ils sont devenus des chrétiens. C'était en devenir, mais il y a une identité attachée au fait de croire et à la personne de Christ, c'est que nous devenons, on les a nommés ainsi, en disant, regardez, ils ressemblent à leur maître, ils sont devenus des petits Christ, des chrétiens. C'est comme ça qu'on leur a donné ce nom-là. Ce qui m'interpelle bien plus, évidemment, comme vous, j'imagine, c'est le texte de Pierre, où il est précisé que nous sommes une nation sainte. Alors, que pourrait représenter l'or pour chacun d'entre nous? Que pourraient représenter ces cadeaux que Dieu nous a faits au travers de son œuvre à la croix? Parce que ces cadeaux, il les a reçus, mais il les a transmis à nouveau. Il me semble que l'or pourrait nous parler de notre intégrité en tant que chrétien, le fait d'être intègre, né de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle âme et un nouveau désir, évidemment, de marcher dans la droiture. L'encens pourrait, si on fait le parallèle, nous parler de la sainteté, avoir un parfum agréable qui se dégage de nous, et que les gens, en croisant notre route, ne soient pas irrités, ne soient pas dérangés, ne soient pas troublés en disant « Ouh là là, j'aime pas ce genre de personne », mais qu'au contraire, cela puisse dégager un parfum qui les interpelle peut-être. Parce qu'après tout, un chrétien peut déranger, mais tout du moins, qu'il puisse interpeller, évidemment. Et puis la myrrhe pourrait nous parler du sacrifice. On a voulu, d'ailleurs on se servait souvent de la myrrhe pour embaumer les corps, mais on s'en servait aussi en le mélangeant à du vin pour essayer d'en faire un espèce d'anesthésiant, de tranquillisant. C'est ce qu'on a voulu offrir à Jésus sur la croix, qu'il a refusé d'ailleurs. Quand on a plongé cette éponge dans le vinaigre, un mélange comme cela pour essayer de calmer la douleur et notre vie, est faite de douleur et de peine, mais n'est-ce pas une vie de sacrifice pour être à la ressemblance de Christ également, et tout cela dévoilant notre amour pour Dieu, notre attachement pour lui. Alors je me suis arrêté, évidemment, sur cette pensée-là, et on va y venir dans un moment, au travers d'un texte de l'apôtre Paul, mais souvenez-vous quand même, deux textes de l'Ancien Testament dans la Genèse, parce qu'il faut revenir à la Genèse, il faut revenir à l'origine. Quand Dieu a créé l'homme, quand il a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. C'est écrit dans la Genèse au chapitre 1er et c'est repris au chapitre 5. Mais littéralement, on aurait pu traduire comme cela, créons l'homme comme une ressemblance, un portrait de nous. C'est ce que Dieu a dit. Créons l'homme comme une ressemblance, qu'il y ait une ressemblance, mais comme si c'était un portrait de nous. Il y a quelques dizaines d'années, je crois que ça doit faire une trentaine d'années, ou peut-être un petit peu plus, j'ai oublié son nom, il y a un fameux faussaire qui a été arrêté et mis au tribunal, un faussaire qui faisait des tableaux. Et il a à son actif des dizaines de Picasso, de Magritte, etc., qui ont été exposés dans des musées. C'est-à-dire qu'il a trompé la vigilance de tous les experts et finalement, on a mis la main sur lui et il a été condamné. Mais il semblerait que de tous les temps, ça a été le faussaire le plus remarquable, celui qui a fait les choses les plus incroyables, à tel point qu'on voyait l'original, on voyait la copie, on était incapable de dire, c'était tellement ressemblant. Ça semblait tellement vrai, les pigments, l'épaisseur de l'encre, etc. Enfin, c'est totalement hallucinant quand on pense que ça a été analysé dans les années 70, donc la technologie était quand même de pointe à ce moment-là. Et quand cet homme a été mené au tribunal, cet homme s'est défendu en disant « Mais le vrai fautif, c'est pas moi, ce sont tous les experts qui n'ont pas vu la supercherie. » Eh oui, parce qu'après tout, lui faisait défaut. Mais comment on n'a pas pu trouver et confondre le vrai du faux? Le vrai du faux. Vous imaginez, je ne sais pas s'il n'a pas fait 80 Picasso ou quelque chose comme ça. Quand vous savez le prix d'un Picasso, vous imaginez un peu. Enfin, c'est hallucinant. Je me dis que si notre ressemblance tendait de plus en plus à être ce portrait de Jésus, ce serait quand même pas mal. Hein. Ce serait pas mal. Or, il est évident qu'un jour, quand nous serons aux cieux, comme dit Paul aux Corinthiens, nous le verrons, Maintenant, c'est un petit peu comme dans un miroir. Mais nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'action du Saint-Esprit. Alors, je m'arrêterai sur cela ce soir et évidemment, ce matin, pardon, on comprend qu'on ne parle pas de traits physiques, mais on parle de valeurs morales au-delà. Et nous avons évidemment la liberté, la volonté, la conscience, l'intelligence, tant de choses qui peuvent nous permettre de ressembler à Christ, la sainteté, l'aspiration au bien. Vous savez comme moi que la chute a brisé ce projet initial, un portrait de nous, c'est raté, parce que le péché a fait son œuvre. Et quand on voit les conséquences, on en a deux exemples dans les évangiles, quand Jésus va considérer le peuple autour de lui. Matthieu chapitre 11, il regarde ceux qui sont autour de lui et il dit ceci, je vous le cite, Matthieu 11, verset 16, « à qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques. » Il s'adresse à d'autres enfants et ils disent, « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous ne vous êtes pas lamenté. » Bref, un enfant qui entre pas dans le jeu. Un enfant qui n'y croit pas, ça paraît incroyable, mais aujourd'hui, on est étonné par plus rien. Mais un enfant, ça a un côté naïf aussi, mais ça a un côté immature, forcément. Et la Bible dit, ne restez pas des enfants, devenez adultes. Alors quelquefois, quand le Seigneur regarde des croyants, il peut dire, c'est dommage, je le regarde et j'ai l'impression de voir un enfant. Alors qu'il aurait dû grandir un petit peu plus, tout du moins. Un peu plus tard, c'est beaucoup plus sévère, quand il s'adresse aux religieux, à ceux qui avaient une religion et qui la revendiquaient, il va être très dur avec eux, Matthieu 23, notamment, c'est un exemple, et verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » À l'époque, évidemment, il y avait des règles très strictes dans la loi et était déclaré impur quelqu'un qui aurait touché un mort, qui aurait approché un mort. Et pendant des semaines, il était déclaré impur. Encore plus ces religieux, encore plus ces gens-là, à cause de leur service. Alors on faisait une chose, quand quelquefois on avait enseveli quelqu'un, on jetait de la chaux à cet endroit-là, donc une espèce de poudre blanche, pour que si quelqu'un passait par là, il se dise « Ouh là là, il y a un mort enterré ici, il faut que je passe à côté, il ne faut pas que je marche dessus », même s'il y avait de l'épaisseur, etc. Et dans le fond, Jésus dit « Regardez-vous, vous êtes comme ces sépulcres blanchis. » Ah, ça paraît beau à l'extérieur, hein, mais si vous creusez, c'est un tombeau, ce sont des os, c'est la mort qui a fait son œuvre. À l'intérieur. Donc, vous pouvez paraître, vous pouvez parader, vous pouvez finalement vous dire que vous êtes bien, mais au-dedans de vous, il n'y a qu'impureté et que désolation. Ça, c'est quand même pas un compliment. Alors, dites-moi, je vais vous dire la même phrase de deux manières différentes. Ce matin, les mages sont venus offrir à Christ de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Je vous pose la question. Ce matin, on a, c'est avec un point d'exclamation, dites bien-aimés, on a de l'or, on a de l'encens et on a de la myrrhe à offrir à Christ, n'est-ce pas ? Ou alors je vous pose la même question avec un point d'interrogation. Avez-vous de l'or, de l'encens et de la myrrhe à offrir à Christ ? Une bonne question, hein ? J'espère que vous en avez en réserve. Si vous ne savez pas exactement à quoi et comment en récupérer, on va voir ça ensemble, parce qu'on peut vérifier ça très simplement en lisant Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, épître de Paul aux Colossiens. Et vous allez voir que dans le fond, c'est toujours le même processus pour avoir ces fameuses richesses à offrir à Christ. C'est toujours le même plan. On passe, premièrement, je mets ça entre guillemets, par une mise à mort. Ensuite, il y a un renoncement. Et ensuite, il y a une appropriation. Alors, on va lire ensemble ce qui apparaît à l'écran, une mise à mort, Colossiens, chapitre 3, en fait, ça va du verset 1er au verset 7, donc on va lire tout ce passage. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre le verset 5 et 8, il y a une opposition de style. C'est bizarre. Il est dit, faites donc mourir l'impudicité, faites donc mourir l'impureté, les passions, les mauvais désirs, etc. Et Paul dit, c'est à cause de ça que Dieu est en colère contre les hommes, les fils de la rébellion, parmi lesquels vous étiez autrefois. Donc, Paul dit, il y a deux camps. Il y a ceux qui ont été rachetés et il y a ceux qui malheureusement ne le sont pas encore. Il y a ceux qui sont perdus et il y a ceux que Dieu veut sauver aujourd'hui. Et il y a ceux qui sont condamnés et il y a ceux qui ont été délivrés de la condamnation. Vous marchiez parmi les fils de la rébellion. Mais donc, si vous marchiez avant parmi les fils de la rébellion, vous n'avez pas besoin de faire mourir ces choses-là, elles n'y sont plus. Et Paul dit, faites-les mourir, elles y sont encore. Aïe, 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 il se passe quoi là? Le coffre a été cassé, on a découvert la serrure, quelqu'un vous a piqué votre or, votre encens, votre myrrhe, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Alors on va revenir sur le fondement, on va revenir sur les fondements, sur la base, par la conversion que vous avez faite un jour, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, par la conversion. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes mort. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes mort à votre ancienne vie, vous êtes mort à vos mœurs d'avant, vous êtes mort à vos pratiques d'avant, vous êtes mort, vos anciennes motivations, elles sont parties, vous ne les avez plus, ces anciennes motivations. Et par la rédemption, parce qu'évidemment, il fallait bien qu'il se passe quelque chose, vous vous êtes converti, vous avez donné votre cœur à Dieu, et vous avez été racheté. Ça, c'est la victoire de Jésus à la croix. La mort de Jésus, c'est ce qui vous dit que vous pouvez être sauvé, et la résurrection de Jésus, c'est ce qui vous affirme que vous l'êtes. Vous êtes ressuscité. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est là, certainement, le défi le plus important. Tous les jours, tous les moments, jusqu'à la fin de notre vie, continuer à porter notre attention sur les choses d'en haut. Au départ, quand on devient chrétien, je pense que ça vous a fait ça, parce que ça le fait en général à tout le monde, la découverte est tellement extraordinaire qu'on lirait la Bible jour et nuit. On dévore, on a soif. On aime, on a envie de lire. Et allez savoir ce qui se passe avec le temps. On aménage notre vie chrétienne et on la lit moins. Au début, quand on a découvert l'Évangile, mais on aurait dormi dans l'Église. Pas pendant les réunions, hein. Mais pour être sûr d'être à l'heure à la réunion. On ne serait pas parti en attendant la réunion d'après. Bon, c'est une image. Aujourd'hui, on se prend le luxe de dire « Oh, j'y vais pas, c'est pas grave, il y en aura une autre. » C'est pas la peine, il y en aura une autre plus tard. Si donc, bien-aimés, nous sommes ressuscités avec Christ, continuons à chercher les choses d'en haut, parce que c'est nécessaire pour notre âme, c'est nécessaire, c'est quelque chose d'élémentaire pour notre marche avec Dieu. Finalement, bien-aimés, on est ressuscités pour une vie nouvelle. N'est pas ressuscité pour reprendre notre cours habituel de notre vie. Et notre vie nouvelle, elle est plus belle, elle est plus propre. Aujourd'hui, on parle des énergies propres. Nous, on connaît en tous les cas la vie qui est propre avec Christ. On sait comment ça fonctionne, on sait comment ça marche. Vous devez y mettre toute votre attention et vous devez vivre pour cela. Quand même, quand on lit dans les Colossiens, toujours au chapitre 2 et au verset 10, « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. » Vous l'avez déjà lu ce verset, hein ?« Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. » Alors j'ai presque envie de vous dire, cherchez à expérimenter tout ce que vous avez en lui. Allez-y, continuez, ne vous arrêtez pas. Soyez un explorateur de la Bible. Il y a une Bible qui avait été faite pour les adolescents, les enfants, les préadolescents et les adolescents. Et c'était justement ça, l'explorateur biblique, pour aller explorer les vérités de la Bible. Eh bien, continuons à être des explorateurs et allons chercher dans l'Écriture ce qui nous est nécessaire. À moins que vous n'ayez finalement déjà fait le tour de la question et que vous n'en ayez plus besoin, là, je ne pourrais pas vous convaincre. Mais si vous avez le sentiment qu'il y a encore quelque chose à découvrir, alors portez-y votre attention, portez-y votre attention. Ça vaut de l'or, vous entendez ? Ça vaut de l'or. Parce qu'il me semble que nous avons été appelés à cela, nous avons été appelés à marcher d'une manière intègre vis-à-vis de Dieu. Alors c'est une mise à mort, et c'est quand même assez curieux, je crois vous l'avoir déjà dit, mais j'ai entendu quelqu'un un jour qui se laissait emporter par la colère, et ce n'était pas la première fois, mais à chaque fois qu'il s'énervait, parce que c'était un chrétien engagé, avec Dieu, à chaque fois qu'il se mettait en colère, il était déçu de lui-même, parce qu'il ne voulait pas se mettre en colère, mais c'était plus fort que lui. Voilà, c'est comme le lait sur le feu, il fallait le surveiller, donc les moments, boum, il explosait, et il n'était pas content, il était tellement malheureux. Et puis un jour, il a fini par, non pas se résigner, mais comprendre peut-être pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et on lui posait la question, mais quand même, tu es chrétien, tu peux te maîtriser, tu es mort quand tu as été baptisé. Tu es mort à toi-même, tu es ressuscité. Il dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand je me suis fait baptiser, quand j'ai plongé dans les eaux du baptême, le vieil homme est mort, enfin le pensais-je. Mais j'ai l'impression qu'il savait nager. Il est ressorti avec moi. Zut, il pensait l'avoir noyé, pensait qu'il était vraiment mort, ben, il savait nager. Alors, je crois qu'il sait nager, malheureusement, parce que tant qu'on sera sur la terre, on est tiraillé. L'apôtre Paul dit « Je ne fais pas ce que je voudrais, je pense mal, j'agis mal, j'arrive même pas à faire ce que je voudrais faire. » Mais quand même, il aspirait aux choses d'en haut. Et je crois que Dieu nous y aide. Amen. Je crois que Dieu nous encourage quand on n'y arrive pas. Et Dieu soit béni. C'est une mise à mort et gloire à Dieu, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Amen. Le renoncement, c'est important, ça aussi. Versets 8 et 9. Mais, c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous lorsque vous marchiez autrefois dans ces péchés-là. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et regardez bien de tout ce qu'on parle. Hein. On parle de la colère, on parle de l'irritation, on parle de la méchanceté, on parle des médisances, on parle des paroles inconvenantes. On pourrait parler de la grossièreté, et on parle du mensonge. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Renoncement. Combien de résurrections Jésus a-t-il opéré dans le Nouveau Testament ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Combien de résurrections ? La fille de Jaïrus, par exemple. Lazare. On connaît tous Lazare. Hein. Que s'est-il passé quand il a ressuscité Lazare ? Il s'est approché du sépulcre. Il a demandé qu'on ôte la pierre, ce que les gens ne voulaient pas faire, hein, parce qu'il sentait déjà depuis plusieurs jours. 4 jours qu'il était là. Ôter la pierre. Et là, il a invoqué Dieu. Et il a dit, Lazare. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le mort est sorti. Le mort est sorti, il y avait une particularité. Il était tout entouré de bandelettes. Et qu'est-ce que Jésus a dit ? C'est logique, hein ? Déliez-le et laissez-le aller. C'est sûr qu'il n'allait pas continuer à vivre comme une momie. Hein. Il fallait bien lui enlever ses bandes. C'est une belle image, je trouve, parce qu'il a fallu le débarrasser de tout ce qui avait été mis autour de lui et qui reflétait la mort, en somme. Et quelque part, quand on est devenu chrétien, on a été délivré, c'est comme si on était sorti du sépulcre, mais il restait ces bandes qui étaient tout autour de nous. C'est comme si on était recouvert d'un manteau, entre guillemets, d'outre-tombe. Eh oui, mais c'est notre vieille nature qui était là. Alors, il est évident qu'à la conversion, notre cause spirituelle a été réglée, c'est sûr. Nous avons été sauvés. Mais à la conversion, la cause humaine, ben, c'est un vaste chantier. Et n'est-il pas vrai que nous marchons de progrès en progrès? Non? Ça veut dire que tous les jours, il faut enlever un petit bout de bande. Mais qu'est-ce qu'il y en a des bandes? Vous ne vous rendez pas compte? C'est pas possible. Après 30 ans, il y en a encore. Après 15 jours, je pense en être débarrassé. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ça signifie quoi? Ça signifie que, malheureusement, Paul est contrarié parce que parmi ces chrétiens de l'église de Colosse, il y en avait qui étaient colériques, qui étaient remplis d'animosité, qui parlaient mal, étaient grossiers, étaient capables de calomnier, étaient capables d'avoir de mauvaises intentions, étaient capables d'être irrités par tout un tas de choses, agissaient de manière méchante. Frères et sœurs, est-ce possible? Est-ce possible que dans l'Église, il y ait des choses pareilles? Non, c'est pas possible. Rassurez-moi, c'est pas possible. Oui, mais vous savez que vous ne pouvez pas me rassurer. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Alors évidemment, je peux toujours me plaindre de l'autre en disant « il ferait bien de changer, lui. Hein. T'as vu comme il est, t'as vu comme il parle, t'as vu ce qu'il dit, t'as vu ce qu'il fait, etc. » Mais on va chacun s'occuper de soi, d'accord? Ça, c'est un bon défi. On va chacun regarder à sa propre vie. On va chacun juste s'examiner soi-même. Et si on est capable avant ce soir de se débarrasser de quelques bandelettes, ce sera bien. Et vous recommencerez demain, et après-demain certainement, du renoncement. Le renoncement, c'est quelque chose d'important, le renoncement. Il me semble que vous avez tous vécu de belles expériences dans ce domaine-là, à savoir que chemin faisant, vous avez vu que Dieu vous avait délivré de tant d'esclavage, on l'a entendu tout à l'heure aussi, tant de passions, tant de liens. Il vous a tellement débarrassé. Certains ont des caractères particuliers. Il y a des gens qui ont un caractère très optimiste. Ils deviennent chrétiens, ils continuent à l'être. Hein. Mais ça prend une dimension, évidemment, beaucoup plus belle. Certains ont un tempérament fragile, pessimiste. Il y a des petites choses qui restent. Et il faut combattre ces choses-là. C'est pas évident. Hein. Vous voyez, la personnalité, on la retrouve quand même. On la retrouve quand même. Comme disait quelqu'un, en rencontrant une personne qui était devenue chrétienne, en parlant à quelqu'un d'autre, il disait « Tu vois, à l'extérieur, c'est le même, mais dedans, c'est différent. » Mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose, des traits qui restent malgré tout. Ça veut dire que tant qu'on sera ici-bas, c'est un effort de renoncement qu'il faut faire, bien-aimé. Un effort de renoncement. Ça ne suffit pas de dire « Ma cause est entendue au ciel, je suis sauvé. » Gloire à Dieu. Tant mieux, merci Seigneur. Mais si je ne fais rien pour entretenir ces choses-là sur la terre, je prends un risque. En fait, je me rapproche de la frontière. Ça ne veut pas dire que si je parle mal, je suis perdu. Je parle bien, je suis re-sauvé. Je suis re-perdu. On va attraper le tournis. Hein. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que moins je suis vigilant et plus je me rapproche de la frontière. Et si je ne fais pas attention, je pourrais perdre cette grâce extraordinaire que Dieu m'a faite. Ce n'est pas la volonté de Dieu de me l'enlever, mais je pourrais la négliger, la perdre, je pourrais m'en écarter, et ça, ce serait quand même terrible. Alors, évidemment, chacun d'entre nous ne le veut, et je crois qu'on a tous envie, eh bien, d'avoir de l'encens à profusion, que ce parfum qui s'élève vers Dieu de sainteté soit vraiment le reflet de notre vie. Qu'après être passé quelque part, autour de nous, les gens puissent dire « J'aime bien, je l'aime bien ». J'aime bien sa compagnie, j'aime bien cette personne. Il m'a apporté quelque chose, il y a un parfum dans l'atmosphère, c'est bien. Vivement qu'on le revoie, vivement qu'on ait à nouveau une discussion avec, Et ça, ça passe évidemment par notre attitude et par notre manière d'être. Et puis, il me semble qu'il y a aussi une appropriation, c'est le troisième volet, ce que j'ai décrit derrière, en fait, la mire, une appropriation. Vous devez porter le vêtement de la grâce, vous devez le porter, ce vêtement-là. Et là, on va dire d'une manière générale, l'or, l'encens, la mire. Du verset 10 au verset 25, j'en parlerai pas beaucoup, donc je vais vous le lire. Colossiens, chapitre 3, verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Bien-aimés, c'est important de revêtir ce vêtement de la grâce parce que si vous aimez les choses de Dieu, les choses d'en haut, ben vous obéirez à Dieu sur la terre. Et vous avez compris dans ce troisième volet que le plus important, ce sont les relations humaines. C'est bien le plus important. Certains pensent que la priorité, c'est leur relation avec Dieu. Ils ont raison. Mais si il n'y a pas de relation humaine, il y a un problème quelque part. Évidemment, c'est la priorité. D'ailleurs, mieux ma relation est avec Dieu et mieux est ma relation avec les autres. Ça va de soi. Donc, il me semble que je dois avoir en réserve dans mon coffre, coffre de mon cœur, beaucoup d'or, beaucoup d'encens, beaucoup de myrrhe, parce que c'est à Christ que je l'offre d'abord. C'est à lui que je lui offre ces choses-là. Et si je suis capable de les lui offrir, eh bien, tous reconnaîtront, et c'est ma conclusion, que l'on est vraiment disciple de Jésus-Christ, à cause de l'amour qui nous habite, qui nous anime. C'est là, à Antioche, que pour la première fois, on les a appelés chrétiens. Eh, bien-aimés, nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis à un grand prix. Un sacerdoce royal. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Alors nous sommes en effet, dira Paul aux Corinthiens, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alors pour ceux qui sont sauvés, quelle grâce d'appartenir à la famille de Dieu. Et pour ceux qui périssent, on a l'impression de lancer le filet dans la mer pour dire « venez au salut, venez à la foi, venez à la délivrance ». On n'a pas envie qu'il périsse davantage, mais on a envie qu'il soit sauvé. Alors c'est le temps des cadeaux. Vous êtes prêts à l'offrir, à les offrir ces cadeaux-là? Vous en avez en réserve? De l'or, de l'encens, de la myrrhe? Super. Offrez-le. Offrez-le à Christ. Offrez-le autour de vous. Offrez-le autour de vous. Et s'il vous en manquait, je pense qu'il y en a en réserve dans les coffres du ciel aussi. N'hésitez pas à en redemander de cette volonté, de ce désir. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, c'est le temps de Noël, c'est le temps de nous rappeler toute l'œuvre qui a été accomplie. Nous avons une identité en Jésus-Christ. Elle est en devenir, elle sera parfaite au ciel, mais elle est déjà là. Vous avez votre carte d'identité, vous l'avez, votre carte, vous l'avez, votre identité en Christ. Alors continuons de le servir comme nous le faisons, continuez de le faire comme vous le faites, continuez de le célébrer comme vous le faites, et réjouissons-nous en Jésus-Christ tout le temps. Amen. On se lève ensemble et on évoque son nom. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce parce que tu es fidèle. Nous voulons te louer parce que tu nous as appris à compter sur toi, tu nous as appris à te faire confiance, tu nous as appris à espérer après toi. Et quel bonheur, quelle grâce, quel privilège nous avons. Je te demande d'étendre ta main maintenant sur chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Nous désirons être plus saints. Nous désirons te plaire, nous désirons que de nos cœurs ne sortent que de belles pensées, nous désirons que de nos âmes ne sortent que de belles intentions, et nous désirons que de nos bouches ne sortent que de belles paroles. Viens-nous en aide, je t'en prie, que chaque mot soit pensé et pesé, que chaque parole soit comme une épée, l'épée de ta parole, à deux tranchants, capable de convaincre, capable de toucher les âmes. Ah Seigneur, étends ta main et viens nous inspirer encore, viens nous conduire encore, viens nous aider encore, parce que tu nous aimes et parce que tu as dit que tu serais avec nous tous les jours, nous l'avons entendu aussi. Merci de ta fidélité, nous voulons t'apporter non pas ce que nous avons de meilleur, mais nous voulons te rendre ce que tu as déposé dans nos cœurs et qui est un parfum qui monte vers toi maintenant. À toi l'honneur et la gloire, que ton nom soit béni pour ta fidélité, Seigneur. Accompagne-nous dans ta paix. Bénis ce temps d'évangélisation tout à l'heure. Ah oui, bénis-le, je t'en prie, mais accorde-nous ta faveur en toutes choses. Merci, Seigneur. Amen.